Merci beaucoup pour cette présentation vraiment excellente parce qu'on a beaucoup progressé. Vous montrez à partir de ce nouveau champ d'action, je pense, je suis très sensible parce qu'on voit combien aujourd'hui on est face à une citoyenneté que j'appellerais performative de plus en plus. Il n'y a pas, et que ça passe au niveau vraiment d'un citoyen à l'autre, d'un individu à l'autre, sans la médiation politique à la limite. Donc, c'est ça l'élargissement du champ d'action politique vers les individus, vers la vie de tous les jours. C'est ça aussi qui est important. Et de plus, effectivement, là, on est en train d'enrichir nos concepts. C'est pas interreligieux, intercommunautaire, mais là, vous dites aussi interconvictionnel. Et je trouve que justement ces trois layers, trois dimensions sont quand même importantes et on voit comment après les attentats, il y a eu justement une rupture, mais une rupture qui a obligé également au sein des communautés de s'en sortir au fond des communautés, d'aller vers l'autre, de prendre des initiatives qui sont vraiment inédites et c'est un peu pas simplement une question de entre musulmans et juifs, mais ça change aussi la société française, je dirais. C'est parce que c'est des actes d'exemplarité de faire public, d'être ensemble. Et dans ce sens-là, on a vu aussi combien on est sorti du discours laïque qui reste très vertical. Et donc cette transversalité, cette horizontalité et individuation, comme l'élargissement du champ d'action. C'est pas un rêve, c'est déjà sur le terrain et il faut que nous, les chercheurs, nous mettons plus en exergue, etc. Je vous remercie infiniment. Alors, on va terminer à 12h30, mais avant, on a le temps. Mon collègue Annie Van Deniste va faire des commentaires comme discutante, une sorte de synthèse, de questions, des choses qu'elle a entendues depuis ce matin. Et donc, elle est professeure de l'anthropologie de culture, vous dites anthropologie culturelle, de Paris 8.
Anthropologue.
Anthropologue, anthropologie, c'est déjà le domaine de la culture. Et vous avez travaillé aussi dans les rapports intragénérationnels et l'aspect de la narration et de la mémoire. Et là aussi, effectivement, il était beaucoup question de la mémoire. Merci beaucoup, Annie.
Alors. Vous avez allumé ?
Non, c'est bon.
Ah bon. C'est bon ou c'est pas bon ?
Je donne le
nom. Oui, alors peut-être je prends celui-là.
Oui.
Oui, alors j'ai décidé d'être discutante d'une façon un peu latérale et aussi provocante. Alors, d'une part, premièrement, ce que je voudrais dire, après avoir remercié les initiateurs de ce colloque, c'est dire combien j'ai été très intéressée par tout ce qui a été dit sur le dialogue interreligieux. Mais j'avais dit à Samuel Everett que je n'étais pas vraiment spécialiste du dialogue interreligieux. En revanche, il y a énormément de concepts, énormément de paradigmes qui ont été discuter ce matin et sur lesquels je voudrais revenir. Alors, il me semble que tous les discours qui ont été, discours au sens noble du terme, foucaldien si vous voulez, qui ont été prononcés ce matin, montrent qu'il faudrait en finir avec les oppositions binaires. Je reviendrai tout à l'heure sur l'opposition binaire, modèle français, modèle britannique, mais d'abord, préférer par exemple l'altérité à l'altérisation. L'altérité, c'est le rapport à l'autre qui met l'accent sur la relation. L'altérisation, au contraire, c'est l'opposition entre des « eux » et des « nous ». Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce plan. Par exemple, M. Bajrafil, a montré quel était le rôle des leaders religieux, le rôle attendu et le rôle malheureusement parfois un peu moins intéressant, en mettant l'accent sur la notion de pont, l'entre-deux, la médiation, ce qu'a fait aussi le rabbin Gluck. en parlant du forum interreligieux et du dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue? Le dialogue, c'est mettre des mots hein, à la place des affrontements qui ne débouchent pas sur une conversation, qui ne débouchent pas sur de la parole. Ce que j'ai retenu du forum qu'il a mis en place, c'est comment aussi la nécessité d'imposer, ce serait peut-être pas le bon mot, mais de susciter le dialogue dans les moments même de tension. Hein, c'est-à-dire, non pas la guerre pour faire la politique autrement, mais au contraire, hein, le dialogue pour ne pas faire la guerre. Pour essayer d'assouplir les relations guerrières. Alors, justement, est-ce que, j'aimerais bien que nous puissions, peut-être c'est une question à la salle, garder ce terme de relation, ou bien celui qui a été souvent employé par les sociologues, les anthropologues, celui de sociabilité. Avant, on parlait d'urbanité, mais je n'ai plus la citation de Mirabeau en tête, que je préfère, moi, personnellement, à ce mot de vivre ensemble, parce que ça, c'est un mot qui vient du politique, enfin, des politiques, pardon. Mmh. Et pas du politique, et qui me gêne un peu. Alors, le modèle, cette histoire du modèle républicain universaliste, hein, qui serait le modèle français, qui s'opposerait au modèle multiculturaliste britannique, je pense qu'il faut en finir avec tous les exemples ont montré, avec cette opposition binaire, parce que les modèles en tant que tels, les modèles purs, ça n'existe pas. Et les sociologues et les anthropologues, alors je parlerai peut-être plutôt là du côté français, ils ont montré comment ce fameux modèle républicain, ce républicanisme universel à la française est complètement fracturé et qu'il n'y a pas plus d'individus égaux en France que dans d'autres pays, et que bon, les dernières, il faudrait peut-être aussi parler de discrimination, pas seulement de discrimination entre les différents groupes, mais de discrimination institutionnelle, comme les dernières enquêtes TEO, c'est-à-dire trajectoire et origine de l'INED, l'ont montré. Il me semble qu'en Grande-Bretagne non plus, il n'y a pas de multiculturalisme sans régulation. Alors, bon, je remercie tous ceux qui ont parlé en termes d'interreligieux pour montrer comment les attentats ont exacerbé les discriminations et comment l'interreligieux peut, espérons-le, essayer de mettre un peu de dialogue et de conversation. J'ai beaucoup aimé la façon dont Monsieur Bajradil a parlé de l'urbanité, a repris, me semble-t-il, la définition de l'urbanité à travers son concept de SMIC culturel. Alors je le cite. C'est le savoir minimum indispensable à la conversation. Je crois que c'est exactement ça, l'urbanité. L'urbanité, c'est la façon de se conduire dans le monde urbain. Bon, évidemment, avec cette horrible opposition entre l'urbain et le rural, les ruraux devant être des sauvages face aux urbains. Mais maintenant, je pense qu'on est d'ailleurs... C'est ça qui est intéressant dans les oppositions binaires, c'est qu'elles se retournent comme des crêpes, et on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt le modèle rural hein, qui va nous servir de version positive, bon, que ce soit du côté de l'écologie ou que ce soit du côté des relations sociales entre voisins, comme on en a parlé longtemps. Alors, oui, aussi, je pense aussi casser l'opposition entre public et privé. Alors, par rapport à... Oui, par rapport... Bon, je voudrais dire quelques mots par rapport à la... sur la comparaison qui a été faite entre Paris et Londres. Alors, Londres, la Global City, et Paris, la cité, la ville romantique, c'est-à-dire archaïque. Bon, c'est vrai, par certains côtés, Paris est en train de développer énormément son potentiel touristique aux dépens d'un tas d'autres potentialités. Mais quand même, je voudrais bien interroger cette notion de global city. Est-ce que cette notion peut être un véritable modèle? Et là, bon, évidemment, si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais il faut qu'on pense à Saskia Sassen qui a beaucoup critiqué la global city. C'est-à-dire la global city où prospèrent les financiers, où le prix du foncier interdit l'accès de plus en plus évidemment aux classes populaires, ça c'est un fait, mais aussi aux classes moyennes, et où, à côté des élites et des grandes entreprises, on voit aussi, on y voit l'afflux d'un certain nombre de migrants qui vont être employés au service à la personne. Et alors, ça me permet aussi de dire des choses peut-être un peu divergentes par rapport à ce qui a été dit sur l'immigration, parce que qu'est-ce que c'est que cette immigration des centres-villes, enfin, là, je ne parle que d'une petite portion hein, de l'immigration qui va servir essentiellement à combler cette dimension du service à la personne, ou des soi-disant compétences culturelles des femmes, c'est le care, ou bien des femmes africaines, plutôt indonésiennes, vont pouvoir être exploitées à des fins économiques. Et par rapport à cette notion aussi de globalisation, je voudrais me référer à un certain nombre de témoignages que j'ai lus dans Le Monde à propos de témoignages de survivants des attentats de novembre. Alors, ce que j'entends par survivants, c'était soit des gens qui étaient pas très loin et qui y ont échappé, un peu par miracle, soit des jeunes qui avaient l'habitude de fréquenter ces cafés, c'était par exemple le cas d'une de mes nièces, mais qui ce soir-là n'y était pas. Eh bien, à côté des témoignages qui parlaient de la ville lumière, de ce Paris avec ses cafés, comme s'il y avait des cafés que dans Paris, comme si on n'en trouvait pas dans le monde entier, de cette ville où les relations entre les jeunes sont facilitées, etc., eh bien, il y avait aussi des témoignages peu nombreux de jeunes qui parlaient de la violence économique qu'ils subissaient dans le travail, dans le fait qu'ils ne pouvaient accéder qu'à des chambres de bonne ou à des appartements tellement étroits que le café, qu'est-ce que c'était ? Ben, c'était simplement leur façon de pouvoir exister le vendredi soir ou le samedi, en dehors des relations que eux analysaient comme des relations de violence à l'intérieur dans la semaine, c'est-à-dire en dehors des jours ouvrables. Alors justement, bon, il me semble que l'urbanité, elle est quand même relativement menacée par la globalisation, du fait que le monde d'aujourd'hui est un monde aux espaces fragmentés, et j'ai entendu ce qui a été dit sur les relations dans l'espace, comment il faut donner la planification de l'espace aux habitants, je préfère le terme d'habitant ou résident à celui d'usager, plutôt aux planificateurs. J'ai aussi retenu le verre d'eau, bon, c'est l'hospitalité. C'est effectivement faire la part, c'est le verre d'eau ou le café, hein, qui sont d'autres façons de mener la conversation et d'avoir des relations de sociabilité. Et par rapport à l'individualisation, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur l'individualisation. Bon, l'individualisation, ça fait partie de notre... C'est une des dimensions de la société actuelle. Elle a son intérêt, elle a aussi son revers. Et bon, je voudrais dire que après les attentats de Charlie, j'ai coécrit un article dans le Huffington Post avec une amie dont le patronyme est musulman, mais ni l'une ni l'autre, nous ne sommes ni croyantes ni pratiquantes. Et nous avions mis l'accent sur le fait que « Je suis Charlie » avait remplacé « Nous sommes tous des juifs allemands ». Personnellement, je préfère le « nous » du collectif. Évidemment, pas un « nous » enfermant, totalisant, intercommunautaire, mais un « nous » intracommunautaire, un « nous » médiateur, un « nous » qui fait de l'interreligieux, certes, mais qui s'interroge aussi sur le politique, sur la façon dont le politique aujourd'hui devrait être un peu plus l'affaire des citoyens. Je vous remercie. Merci.